premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des rêves. Et ce matin, dans le cadre de la journée Penser la France de France Culture, notre invité est l'historien Marc Ferraud. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard nous racontera l'histoire de Charlotte Bérat et de son ouvrage « Rêver sous le Troisième Reich » et de sa collecte de rêves donc et de cauchemars d'Allemands sous Hitler. Mercredi, nous vous parlerons du rêve au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et jeudi, notre émission s'intéressera à l'usage de la psychanalyse en histoire. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons le grand plaisir, dans le cadre de la journée de France Culture « Penser la France », de recevoir l'historien Marc Ferraud, auteur de nombreux ouvrages comme « L'aveuglement »,« Le ressentiment dans l'histoire », ou encore des ouvrages sur la Russie, qui est sa spécialité, ainsi que le cinéma. Sujet de son dernier ouvrage, Les Russes, l'esprit d'un peuple, publié chez Talendier. Avec lui, nous allons évoquer justement les rêves des lendemains de victoire, qui peut-être parfois sont contradictoires. Bonjour Marc Ferraud.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation en ce lundi 8 mai, donc jour férié, fêtant la victoire de 1945 et au lendemain, justement, est-ce un hasard ? Oui, c'est un hasard. Au lendemain de la victoire à la présidentielle d'Emmanuel Macron, vous avez, comme beaucoup de gens, j'imagine, regardé la télévision hier soir. Vous avez vu à la fois le discours qu'il a prononcé à son QG de campagne, les commentaires des hommes et des femmes politiques sur les plateaux de télévision, et puis le discours final qu'il a donné à ses partisans dans la cour et sur l'esplanade du Louvre. Et nous allons parler avec vous du 8 mai 45 et de bien d'autres événements du XXe siècle que vous avez vécu ou sur lesquels vous avez travaillé en tant qu'historien. Marc Ferraud, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie, de ce moment d'histoire, parce que c'est un moment d'histoire, l'élection d'un président de la République ?
Écoutez, il y avait une grande tension dans la société française, plus grande que jamais. Et je crois que ça a été ressenti, non pas seulement par les vaincus, mais par les vainqueurs, comme un coup d'arrêt, un mouvement de l'histoire où le populisme l'emportait sur l'esprit de la démocratie et de la tolérance.
Est-ce qu'on peut dire cela, quand on est historien, au lendemain d'un moment comme ça ? C'est-à-dire, vous dites que ça a été ressenti. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une vérité d'histoire ? On le saura plus tard, ça, j'imagine, Marc Ferraud.
Les sentiments font partie des vérités de l'histoire. Et il n'y a pas de doute que ce qui s'est passé hier était attendu par des millions de gens, les uns porteurs d'une idéologie particulière, les autres porteurs d'une idéologie contraire. Donc, il y avait un enjeu souterrain qui, en même temps, croisait des malheurs et des bonheurs de deux parties différentes de la population française. C'était donc un moment aussi tragique, dont il ne fallait pas trop se réjouir, j'allais dire, aux dépens des vaincus. Car les vaincus, c'était souvent des gens très malheureux et qui avaient exprimé une colère plus forte que les autres.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit le nouveau président lors de ses deux discours. En l'occurrence, il a parlé, il s'est adressé à eux en disant qu'il comprenait parfois la colère qui les animait. Vous avez beaucoup travaillé sur des sentiments, justement, sentiments positifs ou sentiments négatifs dans l'histoire, en particulier sur la question du ressentiment. Et c'est vrai que quand on voyait les manifestations d'hier soir, on se disait, tout compte fait, il y a quelque chose qui peut-être va à l'encontre d'un sentiment que l'on sentait dans la population française, à savoir ce dégoût de soi, cette idée du déclin, cette idée du déclinisme de la France. Est-ce que vous avez ressenti cela ou est-ce que c'est un faux sentiment d'une certaine façon ?
Non, c'est un sentiment qui existe chez d'aucuns, naturellement. Et ce qui est caractéristique de notre temps, je crois, c'est que, alors que la lutte des classes a longtemps figuré comme le moteur principal, j'allais dire, de l'histoire, et puis le nationalisme l'a suivi, c'est le ressentiment qui a pris la relève de tous ceux qui ont été déçus par le cours de l'histoire et qui en attendaient plus, soit pour leur vie, soit pour leur nation, soit pour la société à laquelle ils appartenaient.
Et donc, vous pensez que, justement, cette question de classe n'a pas quelque chose à voir avec ce qui s'est dit pendant toute cette campagne, puisque tout de même, on oublie qu'il y a d'autres candidats qui ont été éliminés à la fin du premier tour, mais qui, eux, portaient des notions de questions de classe, en particulier Jean-Luc Mélenchon. Et Philippe Poutou ou encore Nathalie Arthaud. Est-ce que vous ne croyez pas tout compte fait qu'il y a tout de même souterrainement autour de ce deuxième tour de l'élection quelque chose qui tient à cette vieille lecture, cette lecture ancienne, mais qui serait encore efficiente, de la lutte des classes?
Mais la lutte des classes est un phénomène permanent de l'histoire. Seulement, où il prend la tête, j'allais dire, des mouvements de l'histoire, où il est un peu en retrait par rapport à autre chose. Et nous avons affaire aujourd'hui à un tournant. Il n'y a pas de doute que, par exemple, dans les colonies, ce n'est pas la lutte des classes qui animait ceux qui voulaient devenir indépendants, pour prendre un autre exemple. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la population française, notamment, il y a des rancœurs contre toutes les désillusions qui ne participent pas seulement à la lutte des classes. D'ailleurs, les partis qui incarnent la lutte des classes, le Parti communiste ou, disons, Mélenchon qui entend prendre plus ou moins sa relève, n'ont pas toujours un langage très clair dans le type de lutte qu'il faut commettre, certes contre le capitalisme, mais il n'y a pas que la lutte des classes qui est en conflit, je puis dire, avec la domination et la mondialisation du capitalisme. C'est un peu tout le monde.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans votre travail régulier, Marc Ferraud, c'est que vous vous intéressez à des moments ambigus de l'histoire. Vous êtes toujours intéressé aux tabous de l'histoire, à ces questions, comme par exemple dans un livre qui a eu énormément de succès il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelait L'aveuglement, une autre histoire de notre monde, à ces moments ambigus des lendemains de victoire. Vous ouvrez d'ailleurs ce livre sur l'aveuglement, sur le moment ambigu où des Allemands croient qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont gagné. Les lendemains de victoire sont parfois déceptifs, sont parfois des moments assez ambivalents, et en l'occurrence, c'était le cas pour la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne.
Certes, et précisément pour autant que ces Allemands, les images en témoignent, et les rares documents filmiques qu'on a sur le 11 novembre en témoignent aussi, voient des Allemands absolument émerveillés par la victoire qu'ils croient avoir rencontrée, qu'ils croient avoir eue, pour autant qu'on s'est battu toujours chez l'ennemi et pas chez soi. Donc le territoire est vierge de toute attaque, de tout, et la guerre est finie, donc ils ont gagné. La désillusion, la déception, la colère qui va naître lorsqu'on connaîtra les clauses qui témoignent, enfin qui jugent que l'Allemagne non seulement est vaincue, mais en plus qu'elle est coupable, ça va exploser et ça va être une des origines, naturellement, de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, et c'est la même chose peut-être pour un autre événement de cette Première Guerre mondiale, événement majeur, événement mondial, sur lequel vous avez travaillé très régulièrement, puisque c'est votre travail d'historien dès le départ, à savoir la révolution de février 1917 en Russie. Vous y revenez dans Les Russes, l'esprit d'un peuple, que vous venez de publier chez Talendier, Marc Ferraud. Vous dites, en fait, que ceux qui font la révolution de février 17 ne voient pas arriver, évidemment, octobre 17, et que vous rencontrez Kerensky, c'est au moment où vous faites votre thèse, justement, dans les années 1960, leader des Mensheviks, leader de cette révolution de février 17, qui ne comprend toujours pas le jeu de Bonneteau auquel il a assisté, et l'idée qu'il s'est fait voler, d'une certaine façon, la révolution qu'il avait lui-même provoquée, Marc Ferraud.
Oui, et d'ailleurs, il dit lui-même que c'est le plus grand désastre auquel il a assisté, et il a été un des responsables de ce désastre. Mais on assiste au même phénomène avec Poutine, qui a participé à la perestroïka, et qui a jugé que la chute du communisme était le drame le plus grand, ou plutôt du régime soviétique, le drame le plus grand que les Russes aient jamais connu. Donc ce sont souvent les acteurs de la révolution qui ou des changements qui s'aperçoivent qu'ils ont pu commettre des erreurs et qui font un peu leur mea culpa.
Oui, et c'est d'ailleurs très difficile à la fois de faire comprendre, de se faire comprendre à soi-même ce qui est arrivé quand on s'appelle Kerensky, expliquez-vous. 50 ans plus tard, il vous le re-raconte alors qu'il est aveugle et qu'il a du mal à se déplacer. Il vous le re-raconte lorsque vous le rencontrez, Marc Ferraud. Mais c'est aussi difficile à faire croire à ceux qui ont cru à cette révolution de février 17. Vous racontez dans Les Russes donc L'esprit d'un peuple chez Talandier. Vous racontez dans un chapitre qui s'appelle L'espérance trahie, qui est tout à fait intéressant quand on parle des lendemains de victoire, ce meeting de la Ligue des droits de l'homme à la Grange aux Belles en 1919. Le public hue ces socialistes russes qui évoquent les débuts de la terreur rouge, dites-vous. Après un tel bourrage de crâne sur l'échec de la Révolution, on ne veut pas les entendre. On ne croira que Martov ou Trotsky. On les connaît, on a confiance en eux, dites-vous. Et voilà que stupeur, pendant ce meeting de Grange aux Belles, Martov vient d'arriver, il est justement dans la salle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marc Ferro ?
Eh bien, ce qui se passe, c'est quand il dit que ces immigrés qui viennent d'arriver et que étaient des révolutionnaires, eh bien, ont évidemment vu les horreurs qui se développaient et qui étaient la suite d'événements qu'on croyait heureux. Et pour avoir dit cette vérité, il est hué par tous ceux qui n'avaient confiance qu'en lui. Et il est jeté dehors.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Martov témoigne que ce qu'on dit sur les horreurs de cette révolution en train de se dérouler en 1919, donc 2 ans après le déclenchement de la révolution, eh bien, il y a de la vérité là-dedans. Il y a effectivement des massacres qui se déroulent.
Et on ne veut pas le croire.
Et on ne veut pas le croire.
Alors qu'on avait dit qu'on ne croirait que lui.
Et ça, c'est un signe tout à fait étonnant de ces ambiguïtés de lendemain de victoire où eh bien on a du mal à entendre, comme on aura du mal à entendre dans les années 50 Kravchenko par exemple qui témoignait des camps russes, comme on aura du mal à entendre tous ceux qui témoignent du stalinisme après la Seconde Guerre mondiale. On aura du mal à les entendre parce que ils témoignent, ils disent j'ai vu, j'y étais, et malgré tout on ne veut pas les entendre.
Ils témoignent du fait qu'on a soi-même eu un diagnostic qui était inexact sur la situation. Pour Kravchenko, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que l'URSS venait de gagner la guerre, personne ne s'attendait à sa puissance, à une puissance pareille, et on ne pouvait pas croire que le pays qui avait détruit la Wehrmacht, la puissance incroyable d'Hitler et des nazis, on ne pouvait pas croire que ce pays qui nous avait libérés de ces horreurs avait commis des erreurs semblables.
Et pourquoi ne pouvait-on pas le croire
On ne pouvait pas le croire parce qu'il y avait une contradiction dans le fait que le nazisme avait été détruit et ceux qui avaient détruit le mal ne pouvaient pas avoir commis un mal aussi considérable. Et on ne pouvait d'autant moins le croire que ceux qui témoignaient de tout ça, quand on leur demandait « mais vous avez été déportés » puisqu'il est venu des témoins au procès Kravchenko pour dire qu'effectivement il y avait des camps de concentration en Russie, en URSS. Quand ils venaient et qu'on leur dit « Mais pourquoi vous avez été déportés ? Vous le savez, vous avez commis des erreurs ?» Ils disaient « Non. Mais pourquoi vous avez été déportés ?» Ils disaient « On ne sait pas. » Et qui n'est pas su n'était pas logique. Moi-même, je me rappelle avoir pensé à ce moment-là, mais ils avaient peut-être commis, je sais pas, une manifestation dans les rues, des insultes à Staline, enfin des mots d'hostilité et du coup embarqués. Non. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient rien fait. Et depuis, grâce aux travaux de Werth et de quelques autres...
Nicolas Werth, oui,
on sait que ce qui s'est passé, c'est que des villages entiers avaient été déportés parce qu'ils n'avaient pas atteint les normes de production prévues. Mais chacun n'était coupable de rien.
Il faut dire, effectivement, que la France, d'après la Seconde Guerre mondiale, on va en parler avec vous, était très admirative de ce combat mené par les Russes pour justement empêcher l'arrivée sur leur propre territoire des forces allemandes et qu'on célébrait la grande victoire patriotique. Nous sommes le 9 mai 1945. Et la radio de Moscou, avec son présentateur Youri Levitan, lit l'acte de reddition des Allemands.
Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию.
La guerre, elle marquait la fête du travail, demain elles marqueront la fête de la victoire. À la tribune, Staline.
Voilà deux archives, celle de la radio de Moscou avec son présentateur Youri Levitan qui lisait l'acte de reddition, et puis les actualités françaises qui décrivent donc pour le cinéma, dans les salles de cinéma à l'époque, la parade militaire sur la place Rouge qui fête justement le 9 mai 45. C'est d'ailleurs intéressant de voir que il y a deux dates pour la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon que l'on est soviétique ou russe aujourd'hui, et selon que l'on est américain ou allié des Américains dans la victoire en Europe occidentale, Marc Ferraud.
Oui, mais ça n'a pas été très grave, et en France, ça n'a vraiment pas été ressenti comme l'événement central. L'événement central, c'est que pour les Français, cette victoire de mai, elle a un goût de cendre. La victoire, pour nous, ça avait été la libération.
La libération de chacune des villes dans laquelle
la
on se trouvait.
Oui, la libération, c'est-à-dire Paris en août 1944, ça avait été Lyon, ça avait été toutes les villes. C'était ça, la fin de la guerre. Ce qui avait suivi, bien sûr, c'était la guerre aussi, mais c'était une guerre des armées, menée par De Gaulle, menée par Churchill, menée, etc. Mais les Français, dans leur masse, ne participaient à cette fin de guerre que comme spectateur. Et donc, c'était déjà une autre guerre que celle de la libération du peuple, en partie par lui-même, et en partie par d'autres lui-même, qu'étaient les Français libres, etc.
Si on excepte, évidemment, les quelques poches de la, qui étaient nombreuses tout de même, de la, du territoire français, oui, comme Royan, Lorient, Saint-Nazaire, etc., qui ont été libérés à la veille du 8 mai 45, à quelques jours du 8 mai 1945, justement.
Mais surtout, si ce 8-9 mai laissait un goût de cendre, si on ne trouvait pas l'allégresse de 44, c'est qu'on vivait des moments tragiques auxquels on ne s'attendait pas, qui étaient le retour des prisonniers, le retour des déportés. 4-5 jours avant, Ravensbrück, par exemple. Et on les voyait arriver. Mmh. Et d'un côté, on voyait, j'allais dire, des morts vivants qui avançaient, et de l'autre, on voyait des prisonniers qui, eux, se portaient bien. Et Albert Camus, dans un éditorial de combat, avait mis ce gros titre, « Surtout, ne les opposez pas. Ce sont des malheureux, tous. » Or, on avait tendance à les opposer parce que les uns incarnaient ce que Vichy avait cajolé, les malheureux prisonniers, et les autres incarnaient ce que Vichy avait dénoncé, les résistants, les terroristes, les juifs, etc. C'est donc la guerre civile qui, 3-4 jours avant, se voyait sur les images. En même temps, on avait connu une épuration dont la presse avait grossi les chiffres, puisqu'on avait parlé à un moment d'1 million de personnes. En fait, il y en a eu 80 000 qui ont été inquiétés, et des morts, il y en a eu 10 000. 5 000 de façon incroyable, pendant les combats ou ailleurs, des exécutions sommaires, et puis un nombre beaucoup plus petit par la justice. Mais tout ça crée un climat très désagréable. Et depuis un an, le pays était en quelque sorte en guerre civile. Aux cérémonies, c'était jamais les mêmes qui défilaient. Il n'y a que le 2 novembre, c'est-à-dire le jour de la fête des morts, où il y avait à la fois De Gaulle et les communistes. Mais toutes les autres fêtes, c'était tantôt De Gaulle et les siens, ou l'extrême-gauche et les siens. Le 1er mai, naturellement, mais également d'autres manifestations au Mont-Valérien, où le gouvernement n'était pas. Il n'y avait que les communistes, etc., etc. Autrement dit, l'atmosphère de guerre civile était totale, et même, le 8 mai, De Gaulle l'a fêté avec les armées seules, quelques jours plus tard, en appelant ça la journée des drapeaux, où naturellement, aucun résistant ne figurait.
Et justement, puisque vous évoquez De Gaulle, et qu'il a beaucoup été évoqué d'ailleurs dans cette campagne électorale de la présidentielle qui s'est terminée hier, eh bien, l'archive du 8 mai 1945, De Gaulle, la guerre est gagnée.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues.
Voilà donc le discours du 8 mai 1945 de Charles de Gaulle. Vous nous disiez, Marc Ferraud, avant d'écouter cette archive, que la France était divisée. Vous-même, vous étiez allé au Vercors en tant que résistant. Vous aviez participé au retour après la catastrophe qu'avait été le massacre par les forces allemandes de beaucoup de ces résistants du Vercors. Vous aviez participé à la reconquête de Lyon en particulier. Vous étiez dans quel état d'esprit entre justement la fin de 1944 et donc la libération des villes dans lesquelles vous aviez vécu auparavant? Et justement, cette date du 8 mai 1945, Marc Ferraud.
Eh bien, je crois me rappeler que, autant j'avais salué les discours de De Gaulle de Londres, ceux de Maurice Schumann, très émouvants, et la résistance qu'il incarnait, l'honneur de la France qu'il sauvegardait.
Honneur et patrie, c'était.
Honneur et patrie. Autant le comportement du gouvernement provisoire a déçu tous ceux qui avaient combattu pendant la résistance, enfin un grand nombre de ceux-là, dont j'étais. Eh bien, parce que, comme vous l'avez entendu dans ce discours, certes, par exemple, il a été question un peu de résistants, mais le mot ne figure pas. Il n'a pas été question non plus des déportés, le nom ne figure pas. Et on sentait bien qu'il y avait là une réserve à l'égard de la résistance intérieure, qui ne correspondait pas à l'espoir qu'on avait pu avoir d'être reconnu comme combattant.
Ce qui est intéressant, et qu'on a tendance à oublier, c'est l'importance de ce mot de patrie qui est prononcé plusieurs fois dans ce discours par Charles de Gaulle. Et je m'en entretenais avant sa mort, il y a quelques années, avec Raymond Aubrac, qui me disait que c'était ce qui était le plus difficile à faire comprendre aux jeunes Français d'aujourd'hui qu'il allait rencontrer avec Lucie Aubrac dans les classes. C'était qu'on pouvait être communiste ou proche des communistes et patriote. C'est vrai que cette question du patriotisme était quelque chose qui était évidemment très fort dans la génération qui était la vôtre et celle qui vous précédait, Marc Ferraud, pendant cette Seconde Guerre mondiale, et qu'on a peut-être perdu le sens de ce que ça voulait dire jusqu'à ce que les deux candidats de la présidentielle, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le reprennent à leur compte tous les deux dans leur discours de campagne.
Oui, parce que la Première Guerre mondiale a eu cette qualité que, pour la première fois dans l'histoire, si je puis dire, dans les guerres avec d'autres, il n'y a pas eu en France de parti de l'ennemi. C'était l'Union nationale. Et c'est pour ça que le 11 novembre est la fête la plus normalement fêtée par tous, tout comme la fête des morts, qui touche tous les Français. Mais la Deuxième Guerre mondiale a connu des partisans de l'ennemi, puisque nous avons une guerre civile intérieure et des légions qui se battaient dans un camp et d'autres qui se battaient dans un autre. Les proportions n'étaient pas les mêmes, mais il y a eu une division très profonde sous Vichy de la population française. Donc, on était dans une guerre civile qui se perpétuait sous une forme civile, alors qu'elle avait été jusqu'à l'aide à l'extermination des ennemis de du pays, qu'on appelait les terroristes, qu'on appelait les juifs, etc. Mmh. Et là, nous vivons encore dans cette situation à cause précisément de la réponse des victimes qui pratiquent une épuration de tous ceux qui avaient été responsables d'une collaboration avec l'ennemi. C'est donc un climat très lourd qu'on a
le 8 mai 45.
Le 8 mai 45. Et c'est pour ça que je disais qu'il m'avait laissé à l'époque un goût de cendre, mais pas à moi seulement.
Et oui, climat d'autant plus lourd que, comme le rappelle dans un livre qui paraît fin 1945, Pierre Hervé, qui a été un des étudiants communistes proches avant la guerre, en philosophie, proche de Jean-Pierre Vernant, proche de Lucie Aubrac, qui aura été un grand résistant aussi dans le réseau Libération Sud et qui aura en particulier fait partie de UMLN, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il écrit un livre qui s'appelle « La libération trahie », que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque pour notre entretien d'aujourd'hui, et qui est un livre fort intéressant puisque on y découvre, par exemple, qu'il évoque, à la page 65 de son livre, en critiquant les humanistes, ce qu'il appelle les humanistes de la libération, il dit « Qu'est-ce que ça veut dire à supposer que ça veut dire quelque chose ? Remarquons d'abord que nos humanistes sociologues, qui ont leurs entrées dans les cabinets, auraient bien fait d'avertir le gouvernement que l'humanisme ne pouvait pas tolérer les méthodes appliquées en Syrie, les massacres de Sétif, voire en Afrique noire, les révoltes que l'on provoque pour mieux les réprimer jusqu'au jour où les clameurs des puritains légitimeront l'intervention des troupes américaines. » Donc il est proche du Parti communiste, il est au Parti communiste, en l'occurrence Pierre Hervé à ce moment-là. Il écrit cela à la fin de 1945 et il prend en compte ce qu'on a presque redécouvert relativement récemment, ce 8 mai 45. En Algérie, ces massacres du Constantinois, à Sétif et Guelma, ces massacres aussi d'Européens, le 8 mai 1945, il le prend en compte dans un livre qui critique tous les beaux esprits qui veulent une sorte de réconciliation en dehors du Parti communiste, Marc Ferraud.
Oui, mais comme vous l'avez lu, ou vous l'avez dit, les faits de Guelma et de Sétif n'ont été vraiment redécouverts que beaucoup plus tard.
Ouais.
À l'époque, on ne peut pas dire qu'ils aient été vraiment identifiés. Quand je suis arrivé en Algérie, par exemple, en 1948...
Pour enseigner en tant que professeur.
Pour enseigner comme professeur. Je me rappelle que les premiers militants nationalistes que j'ai rencontrés, tels Ferhat Abbas et quelques autres, et qui m'ont parlé de Sétif. Ce qui retenait surtout, c'est qu'à cette date-là, il y avait des communistes au gouvernement. Et qui n'ont rien fait pour condamner les massacres qui ont eu lieu, la répression qui l'a accompagnée. Alors qu'à ce moment-là, des Français d'Algérie ont découvert un drapeau algérien, c'est-à-dire que l'Algérie revendiquait une indépendance, qui était quelque chose d'inimaginable, à laquelle personne n'avait pensé en métropole, sauf ceux qui étaient des spécialistes des questions coloniales et qui étaient peut-être des avocats, des militants, et qui eux étaient au courant. Mais la plupart des gens, non. Donc ces faits-là étaient complètement ignorés. Mais il n'y a pas eu que cela qui ont été ignorés. Il y a eu d'autres faits ignorés qui ne sont pas du tout du même registre, mais qu'il faut quand même signaler. C'est qu'on ne s'est pas aperçu, à la fin de cette guerre, en mai 1945, que l'Allemagne vaincue était plus puissante vaincue qu'en 1939.
C'est-à-dire ?
Elle récupérait tous les Allemands qui avaient occupé l'Europe, soit que comme simple... émigrants en Russie, par exemple, les Allemands de la Volga, en Roumanie, des colonies allemandes très fortes.
Et très anciennes.
Et très anciennes. En Tchécoslovaquie, comme occupants pour renforcer les Sudètes, et qu'il y a 6 millions d'Allemands de plus qui sont rentrés en Allemagne. Si bien qu'à la fin de la guerre, nous les vainqueurs, nous avions une Allemagne en face de nous qui était plus peuplée qu'en 1939. Personne n'a vu ça. Et ça a eu des suites, vous l'imaginez. Bon. Donc, il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues, il y a des tas de choses qu'on a vues, et puisque vous parliez de De Gaulle, je voudrais vous signaler que si on pouvait juger à l'époque qu'il y avait les communistes et De Gaulle, et rien entre les deux...
C'est ce qu'on disait souvent.
C'est ce qu'on disait souvent. De Gaulle a eu des mots très, très vifs pour décrire une situation qui nous ramène, si vous permettez, à aujourd'hui. C'est un texte, c'est quelque chose qu'il dit à son lieutenant, chauffeur, avec qui il parlait beaucoup, qui s'appelle le lieutenant Guy. Et je vais vous lire ce petit texte, parce que nous reviendrons comme ça à notre sujet, c'est-à-dire à aujourd'hui. Mm-hmm. La France, dit-il à Claude Guy, ne changera jamais. Vous aurez toujours, à gauche, une masse révolutionnaire, toujours en mouvement. En ce moment, c'est les communistes. Point de suspension. Et plus tard, point d'interrogation. Et puis, vous avez toujours un certain nombre d'idéologues, de cocus ou d'optimistes, voire d'utopistes, qui hier étaient radicaux et aujourd'hui socialistes. Et puis, vous avez les conservateurs, qui se prennent pour des progressistes. C'était le MRP, derrière les catholiques, les industriels, les gros commerçants. Ils s'appellent toujours républicains de la liberté. De quelle liberté? Enfin, au milieu, vous avez un marécage. Voilà pourquoi, mon cher Guy, la solution n'est pas dans les partis. Les communistes disent qu'ils vont faire écho à tous qui veulent combattre la réaction. Et les autres, en face, prétendent toujours vouloir faire échec à la dictature de la Russie. On se croirait aujourd'hui.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire dans le cadre de la journée donc qui a été imaginée par France Culture avec des grandes voix qui commentent cette élection présidentielle, journée qui s'intitule « Penser la France » et nous sommes en compagnie de l'historien Marc Ferraud qui vient de nous lire ce texte de Charles de Gaulle, cette discussion qu'il avait avec son chauffeur et qui d'une certaine façon montre une France immuable. C'est aussi ça peut-être qui peut être... critiquable ou critiqué, c'est l'idée qu'il y aurait une France de toujours, qui serait à peu près toujours la même, même si les partis qui composent le spectre politique peuvent changer, il y aurait une sorte de substrat qui serait toujours le même, Marc Ferraud.
Oui, on peut avoir des partis qui deviennent stériles et des opinions profondes qui demeurent à travers les siècles. Il n'y a pas de doute qu'en France, nous avons, depuis la Révolution, depuis les Lumières, un courant longtemps majoritaire qui défend les droits de l'homme, qui défend certaines valeurs, qui défend, j'allais dire, un parcours dans l'histoire, depuis l'absolutisme jusqu'au libéralisme, jusqu'à la démocratie, et puis pour certains jusqu'au socialisme ou au communisme. Mmh. Et puis depuis la même époque, vous avez ceux qui sont opposés à ce courant. D'ailleurs, ils sont plutôt nés en Allemagne, en Europe centrale, dans des pays occupés par la Révolution française et qui ont critiqué l'occupation de la Révolution française, qui certes apportait bien des valeurs, puisque beaucoup de ces Allemands, de ces Polonais étaient favorables à la Révolution française, mais qui s'est traduit souvent par une tentation de l'occupation et de la domination. Et c'est dans ce contexte que l'idée de la Révolution française, que tous les hommes, au fond, universellement, étaient des individus qui avaient des valeurs en eux-mêmes qu'il fallait défendre, même s'ils étaient différents, eh bien, ça a été contesté par ceux qui disaient « Mais pardon, nous sommes tous différents les uns des autres et pas semblables. Par conséquent, notre identité d'Allemand est irréconciliable avec celle des Italiens ou des Russes. » Et c'est comme ça que naît peu à peu le populisme, qui défend d'abord l'identité et non les valeurs de liberté.
Ce qui est tout à fait évident quand on évoque ce 8 mai 1945, puisque nous sommes un autre 8 mai en 2017 avec vous, Marc Ferraud, c'est évidemment cette ambiguïté que pointent certains à ce moment-là d'une France porteuse de valeurs, de liberté, qui est aussi la France qui continue le colonialisme et la colonisation. Vous-même, en vous rendant en Algérie comme professeur, vous allez appartenir à des mouvements de fraternité algérienne, vous allez réfléchir à cette question-là, vous allez quitter avec votre femme Oran, où vous avez enseigné entre 1948 et 1956, vous quitterez Oran en 1956, au moment où, effectivement, il n'y a plus grand-chose à faire. La guerre est véritablement là, au bout du compte. Mais on voit bien combien cette République ne sait pas trop quoi faire pour pouvoir à la fois tenir ses propres préceptes et en même temps tenir ses colonies qui demande plus de liberté, plus d'égalité et plus de fraternité, Marc Ferro.
Oui, c'est une contradiction qui a existé dans toute l'histoire. Ça a commencé aux États-Unis, où Jefferson, qui est à l'origine de la Constitution, disait « Oui, tous égaux, mais les autres, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Les autres, c'était les Indiens et les Noirs. Et nous, nous avons eu les mêmes contradictions, mais on ne les a pas soulevées au même moment, ou plutôt, le pays s'est divisé en deux. Ceux qui jugeaient que l'œuvre de régénération à laquelle on opérait dépassait les crimes qu'on avait dû commettre et ensuite le comportement qu'on avait de ne pas tenir nos promesses, alors que d'autres jugeaient qu'il fallait d'abord rendre au peuple leur liberté en vertu de nos principes. Et c'est d'ailleurs ce que les colonisés reprochaient, si je puis dire, aux colonisateurs, c'était de ne pas respecter leurs principes tout en voulant transformer ceux qu'ils dominaient. Et c'est là, en quelque sorte, qu'il y avait une contradiction majeure.
Et c'est là, peut-être aussi, où l'élection d'hier peut-être fermer temporairement un chapitre de cette longue histoire de la France, puisque on sait combien il a été critiqué pour cela, mais en tout cas, Emmanuel Macron a, y compris à ce micro, il y a quelques semaines, redit que cette question des crimes coloniaux devait être au cœur de sa réflexion sur la longue histoire de ce pays.
Oui, l'expression qu'il a eue à l'époque, je l'ai entendue, était maladroite. Et on ne pouvait pas confondre deux choses. Les conquêtes coloniales, qui ont été des horreurs dans tous les pays. Mais ceux qui avaient été conquis, eux-mêmes avaient conquis d'autres. Les Arabes avaient maltraité les Noirs, etc. Bon, bref, ça c'était une chose. Et la colonisation, c'était autre chose. Je veux dire que, pour ma part, tout en voyant les injustices du régime colonial, restant 8 ans dans ce pays, jamais je m'étais considéré comme un colonialiste. Au contraire, n'est-ce pas ? Puisqu'on apprenait les valeurs aux jeunes élèves musulmans et non musulmans dans la même classe.
Mais ce qu'il a bien dit, Emmanuel Macron, dans ses entretiens d'hiver où il est revenu sur ces questions-là, c'était les crimes de la colonisation, c'était pas forcément les crimes de la fin de, et en particulier de la guerre d'Algérie, qu'il qualifiait de crimes contre l'humanité. C'était donc la conquête en particulier au XIXe siècle de ce pays-là qu'il visait dans cette question
oui,
de qualification.
Oui, c'est peut-être ce qu'il visait, mais ça n'a pas été clair dans l'élocution. Mm-hmm.
Et donc, vous pensez que cette question-là peut, vous qui étiez à un moment où évidemment, cette question était très débattue entre 1948 et 1956 et encore après, peut finir d'être un débat dans la société française comme peut-être la Seconde Guerre mondiale l'a été
non,
ou d'autres moments.
Non, c'est toujours un débat, mais ce qui s'est passé hier, c'est un peu un coup d'arrêt à tous ceux qui mettaient en cause l'œuvre universaliste de la société française. Il n'y a pas de doute que depuis quelques années, la colonisation est plus présente dans la vie de la métropole qu'elle ne l'était du temps de la colonisation. Au temps de la colonisation, c'est-à-dire jusqu'en, mettons, la fin de la guerre d'Algérie, 62, en France, la colonisation était quelque chose de lointain, qui n'était pas présent dans la vie de chacun, sauf par quelques événements mineurs. Tandis que, depuis les années 60, à cause de toutes sortes de phénomènes, et notamment le ressentiment des colonisés qui ont pu rester en France, ou qui sont restés en France, ou qui ont été en France, pour une donnée ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, le ressentiment qu'ils ont vécu est quelque chose qui a été à l'origine de drames dont nous voyons aujourd'hui les conséquences, même si ce n'est pas ça seulement qui est à l'origine du terrorisme. C'est aussi l'apparition d'un islamisme conquérant et qui entend substituer à la réforme de l'islam l'islamisation de la modernité, c'est-à-dire une sorte de conquête de la culture du monde occidental. Donc il n'y a pas que le ressentiment des colonisés qui interviennent dans toutes les histoires que nous connaissons, mais que ce soit cela ou tout à fait cela ou pas seulement cela, c'est pas étranger quand même au fait qu'aujourd'hui, ces problèmes sont beaucoup plus présents qu'au temps de la colonisation, où ils étaient épisodiques.
Mais ça fait partie de ce que vous nommez, Marc Ferro, les ruses de l'histoire. C'est-à-dire que souvent, on pense avoir un phénomène historique qui est derrière nous, et puis on s'aperçoit qu'il est devant soi au bout du compte, c'est-à-dire qu'il revient par des moyens étranges qui, d'un seul coup,
se retournent
et qui font que vous l'avez devant vous, alors que vous pensiez que c'était une histoire très lointaine et finie, close d'une certaine façon.
Oui, il y a un exemple très récent que nous connaissons tous et qui est simple, c'est le Brexit anglais. Les Anglais, quand ils ont vu d'une part qu'il y avait beaucoup d'immigrés polonais qui, entre guillemets, prenaient leur travail, etc., etc., exactement ce qu'on a pu dire en France pendant très longtemps, ce qui était tantôt vrai, tantôt pas vrai, mais ressenti comme vrai, et c'est ça qui compte, le ressenti est souvent plus vrai que le vrai. Donc c'était une des premières raisons. La seconde, c'était que les Anglais ne supportaient pas que leurs lois, leurs jugements, leurs tribunaux et leurs décisions réévaluées à Bruxelles. Et les Anglais disaient, nous ne sommes plus chez nous. Et en France, le parti de Marine Le Pen et d'autres jugent aussi, pour ces raisons et pour d'autres, par exemple par la montée de la charia dans certains milieux et quartiers en France, nous ne sommes plus chez nous. Or, cette phrase, nous ne sommes plus chez nous, mais c'est celle que prononçaient les colonisés. Nous ne sommes plus chez nous. Parce qu'on leur appliquait des lois françaises, par exemple, alors qu'ils avaient d'autres coutumes. Et d'une certaine façon, est-ce que ça ne voudrait pas dire que peu à peu, c'est nous qui nous sentons maintenant colonisés par la mondialisation et que la revanche des identités fait partie du combat pour notre propre liberté? Il y a donc une sorte de ruse de l'histoire qui retourne les situations et qui est quand même incroyable.
Mais ce qui est incroyable, c'est ce que vous dites, c'est quand vous dites, Marc Ferraud, le ressenti est parfois plus important que la réalité au bout du compte. C'est-à-dire que il faudrait, en historien, travailler autant sur ce ressenti, sur ces émotions, que sur les faits eux-mêmes.
Que sur les statistiques.
C'est-à-dire, vous qui êtes quand même issu d'une école qui était l'école des annales, puisque c'était votre formation initiale, Marc Ferraud, vous pensez qu'au bout du compte, le ressenti des événements vaut plus ou au moins autant que les faits eux-mêmes?
Il doit être pris en compte. Il faut faire la part dans le ressenti de ce qui est légitime, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est dû à certaines causes plutôt qu'à d'autres. Ça n'est pas tout simple, bien entendu. Mais on a trop tendance aujourd'hui, vous le remarquerez comme moi, que dès qu'on évoque une réforme, que ce soit en France, mais ça vous le savez comme moi, mais aussi bien dans d'autres pays, qu'à peine on a ouvert la bouche pour évoquer une réforme, que la calculette calcule déjà combien ça coûte. C'est-à-dire que le combien ça coûte est devenu, j'allais dire, le seul critère qui sert d'évaluation à la moindre idée qu'on peut avoir sur les changements à faire opérer à la société.
Vous disiez tout à l'heure, effectivement, que cette société française de la fin de la Seconde Guerre mondiale était une société divisée. On a beaucoup répété pendant toute cette campagne électorale des présidentielles que la France était coupée en deux, qu'elle était coupée en quatre, parfois divisée. Pour témoignage de ce que vous disiez tout à l'heure, je reprendrai un autre extrait de ce livre de Pierre Hervé que je citais tout à l'heure, La Libération trahie, qui dit ceci et qui m'a fait sourire en le lisant. « Nous sommes des rebelles », écrit Pierre Hervé, « nous sommes des rebelles », entre guillemets, disait récemment un jeune homme qui a témoigné dans la résistance à l'ennemi et ses qualités de courage et de désintéressement. « Nous sommes des rebelles, oui, sans doute, comme le sont les fils de famille qui partent pour quelque escapade. Ceux-ci savent bien que la table familiale leur est toujours ouverte et qu'au moindre cri de leur estomac, ils n'ont qu'à s'y présenter. Et puis l'on se sent un homme quand on a fait pleurer sa mère. Ces jeunes élégants néo-socialistes seraient-ils rebelles aux lois morales conventionnelles qui gouvernent notre société? Allons donc, ils n'ont que morale à la bouche, ils sont crottés de morale bourgeoise des pieds à la tête. Seraient-ils rebelles aux lois sociales et politiques? Ils croient avoir fait un grand pas en avant quand ils ont admis que l'ouvrier est un homme comme un autre, qu'il a le droit d'avoir une vie décente, qu'il faut le faire participer aux bénéfices des entreprises. Je vous épargne les prêchis-prêchats d'un paternalisme toujours vivace. De l'école des sciences politiques, ils nous ont apporté la stabilité de l'exécutif, le régime présidentiel, la Cour suprême, du presbytère. Ils nous ont apporté le vote plural. Voilà ce qu'on appelle un texte un peu raide, pourrait-on dire, Marc Ferraud de Pierre Hervé en 1945.
qui est parallèle à celui de De Gaulle que je citais tout à l'heure.
Exactement, qui est tout à fait parallèle à celui que vous citiez tout à l'heure. Vous parliez à l'instant même, Marc Ferraud, de ces questions d'inconscient qui taraudent les sociétés. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour Emmanuel, bonjour Marc Ferraud.
Vous avez préparé cette émission et cette semaine d'émission avec nous, Anaïs Quin. Et demain, vous allez nous proposer, dans une réalisation de Françoise Camard, un documentaire sur
les rêves. Alors, c'est un documentaire plus particulièrement sur un livre que vous avez tous peut-être vu, parce que ce livre a traîné sur de nombreuses tables basses et dans de nombreux bureaux. Rêver sous le Troisième Reich de Charlotte Beratte.
Voilà.
Et donc l'idée de ce documentaire était d'abord de faire entendre ces récits oniriques, puisque Charlotte Beratte, vivante à Berlin entre 1933 et 1939, étant proche des communistes allemands, rapidement interdits par le nouveau pouvoir nazi, se trouve dans l'incapacité finalement d'agir. Et c'est en dormant qu'elle trouve une idée pour retrouver un mode d'action. Et elle va collecter près de 300 rêves dans lesquels elle va repérer des motifs communs qui s'expriment sur l'inscription du nazisme dans la vie quotidienne, dans la rue, dans ses expressions symboliques. Et elle va aller voir pour cette collecte aussi bien des vendeuses, des femmes de ménage, des chefs d'entreprise et des avocats qui vont donc accepter de lui livrer ces récits extrêmement intimes, finalement, cette vie nocturne, inconsciente, qu'elle va recueillir et dont elle fera un ouvrage beaucoup plus tard, après la guerre, après Auschwitz, dans les années 60.
Oui, et c'est cet ouvrage que vous avez compulsé, vous l'avez fait lire ou relire à deux de vos invités qui seront donc dans le documentaire, en l'occurrence
Martine Lebovici, qui a fait un travail d'archives sur Charlotte Beratte, qui a notamment dépouillé sa correspondance avec son entourage lorsqu'elle préparait cet ouvrage, et à Johan Chapoutot, qui a travaillé sur la culture nazie, sur le système de pensée nazie et sur la symbolique nazie.
Oui, on a parfois besoin, Marc Ferraud, quand on fait de l'histoire, d'avoir des gens qui ne sont pas des historiennes ou des historiens, comme Charlotte Beratte, qui d'un seul coup vous ouvre une fenêtre et une porte. Vous êtes toujours saisi, vous, en tant qu'historien, de ceux qui vous disaient, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe par là, et qui vous laissait entendre que vous, l'historien, vous pourriez vous en servir, Marc Ferraud.
D'ailleurs, dans mon livre sur l'aveuglement, je note que ce sont souvent les rêves qui mettent fin à l'aveuglement, en révélant des choses que l'on ne voulait pas voir.
Que l'on se cache à soi-même.
Qu'on se cache à soi-même.
Vous notez vos propres rêves, Marc Ferraud, ou pas du tout?
Pas les miens, mais sans doute, j'en cite un de Bérard, bien entendu, mais il y en a d'autres, n'est-ce pas? Il est sûr, par exemple, que quand ma femme enseignait en Algérie, elle avait une fois une quatrième, donc des gamines de
13-14
ans, voilà, à qui elle demandait de raconter un de leurs rêves. Et à sa grande surprise, sur une trentaine de copies, il y en avait 7 ou 8 qui disaient qu'elles avaient été violées par un arabe. Et alors qu'en fait, il n'y avait jamais eu le précédent de métropolitaine violée par un arabe. Or, au Mexique, au XVIIe, c'était la même chose. Les Espagnols rêvaient qu'elles risquaient d'être violées par un Indien.
Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aussi dans certains rêves que Charlotte Beratte a recueillis. On a un groupe de jeunes femmes, à un moment donné, qui racontent une agression d'ordre sexuel dans leurs rêves de la part de dignitaires nazis.
Donc ces rêves sont plus présents que le réel. Ils marquent la vie entière, d'une certaine façon. Merci. C'est pour ça qu'ils interviennent dans l'analyse, justement, de ce qu'on ressent et qui peut-être n'est pas réel.
Merci beaucoup, Marc Ferraud. Je rappelle que vos livres, L'aveuglement, Le ressentiment dans l'histoire ou bien d'autres, sont disponibles bien évidemment en poche, et que votre dernier livre, celui qui s'intitule Les Russes, l'esprit d'un peuple, vient tout juste de sortir chez Talendier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir le lendemain de cette élection présidentielle et pour l'anniversaire du 8 mai 45 évoquer ces rêves espérés par tous ceux qui voulaient, au lendemain d'une victoire, un monde meilleur. Merci encore, Marc Ferraud.
Merci à vous.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Françoise Camard à la réalisation.